matin, mais elle a des soucis de santé. Voilà, elle n'a pas très bien dormi cette nuit. Mais du coup, voilà, je vous salue de sa part. Je suis papa de 4 enfants, mais il n'en reste plus qu'un à la maison. Voici le dernier spécimen des sauvages. Voilà, et j'en ai 2 qui sont mariés. Ma dernière fille s'est mariée le 5 octobre. C'était un privilège. Et c'est pour ça que quand j'ai préparé cette prédication il y a quelques temps, bien je me suis régalé parce que cette prédication parle d'un mariage aussi. Et quand il y a un mariage, eh bien en préparation, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de soucis. Alors là, j'étais reconnaissant envers ma fille parce qu'elle a tout pris, elle a bien fait les choses. Elle a tout préparé, c'était minutieux, mais c'était un gros souci, une grosse pression pour elle. Et donc, voilà, nous allons parler ce matin des noces de Cana. Juste aussi un petit mot pour vous dire que je viens d'une église protestante évangélique. On est membre des CAEF à Istres. Voilà, je suis membre depuis 1982 de cette église. Nous sommes à peu près 65 membres. Voilà, et puis il y a aussi quelques enfants. Et Tom connaît bien l'église puisqu'il est venu de nombreuses fois. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Et il me semble que l'église est baptiste, et ici. Et moi, j'ai fréquenté, quand j'étais étudiant, pendant 4 ans, l'église baptiste à Toulon. Et ça a été vraiment des liens très forts. Et j'étais très reconnaissant de vivre la foi, de vivre ma foi naissante dans cette église baptiste à Toulon. Voilà, alors, je vous propose de lire bien ce passage. Jean 2, verset 1. C'est dans la version de la Bible du Semeur. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. » Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon vin, le bon, jusqu'à maintenant ?» C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Mais ils n'y restèrent que quelques jours. Voilà pour ce passage de la parole de Dieu. Ce texte bien connu se comprend assez facilement. Si on devait le résumer, on pourrait le faire ainsi. Jésus, Marie et les disciples sont invités à un mariage. Mais durant le banquet, le vin se met à manquer. Marie demande à Jésus de s'occuper de ce problème. Alors Jésus demande aux serviteurs présents de remplir 6 jarres d'eau. Ils obéissent puis ils constatent que Jésus a transformé l'eau en vin. L'organisateur du repas s'étonne de la qualité du vin qu'il vient de goûter et de son service à la fin du repas. Et enfin, nous voyons à la fin de ce texte que ce miracle ce signe provoque la foi des disciples et révèle la gloire de Jésus. Cependant, si nous relisons le texte, eh bien, nous voyons que Jésus emploie une parole énigmatique avec sa mère. Ça attire notre attention. La portée de ce miracle nous interroge aussi parce qu'il est accompli avec très peu de personnes. Très peu de personnes sont au courant de ce qui se passe. Les serviteurs, la mère et les disciples. Ce n'est pas un miracle grand public comme on en voit d'autres. Enfin, force est de constater que ce miracle a une portée considérable sur la foi des disciples, mais pas de tous. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ce miracle de Cana peut nous apporter ? Je vous propose un plan en trois parties. Nous allons voir premièrement que Jésus participe à un mariage et vient en aide aux mariés. Dans un deuxième temps, nous verrons que Jésus n'est pas encore arrivé à son heure. Enfin, dans un troisième temps, nous verrons que Jésus dévoile sa gloire et provoque la foi de plusieurs. Alors tout d'abord, Jésus participe à un mariage et vient en aide aux mariés. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup de plaisir lorsque je lis les évangiles à regarder la vie de l'homme Jésus, car ça me permet de me sentir proche de lui. Jésus avait un corps comme nous, un appétit comme nous. Il ressentait du plaisir lorsqu'il était avec sa famille, avec ses disciples. Lors de ce mariage, Jésus et Marie sont invités. Ça se passe à Cana, qui est située à proximité de Nazareth, la ville où Jésus réside. On peut penser que le marié était un proche de Marie. Sans doute même quelqu'un de sa famille. Ce sentiment a été renforcé pour moi par le verset 12 qui clôt notre texte et nous dit « Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que quelques jours. » Pourquoi Jean parlerait-il des frères de Jésus à ce moment-là de notre texte, le dernier verset, s'ils n'avaient pas eux aussi participé à ce mariage ? D'autant plus que le verset 13 qui suit immédiatement notre texte parle d'un tout autre sujet qui n'a rien à voir et d'un autre lieu. Pourquoi l'apôtre mentionnerait les frères de Jésus si ce n'est parce qu'ils ont participé à ce mariage ? Alors si ce mariage est effectivement celui d'un proche de Marie et de Jésus, certaines paroles et attitudes de notre texte vont s'expliquer, vont apprendre une autre résonance. Lorsqu'on est proche de la famille du marié, eh bien, il arrive qu'on participe, et c'est même normal, à la préparation du mariage. De manière pratique, on va aider, à préparer les tables, à la décoration de la salle, etc. À cette époque, les mariages pouvaient durer 7 jours entiers. Incroyable. Moi qui viens d'en parler, passer par là, j'ai de la peine à imaginer tout ce que ça impliquerait en termes d'organisation, matériellement, financièrement. Heureusement que les mœurs ont changé aujourd'hui. Comme ça, les parents peuvent survivre au mariage de leurs enfants. Alors, la réaction de Marie, qui est partie prenante à ce mariage, s'expliquerait donc facilement. Marie veut que tout se passe bien. À cette époque, le marié a la charge exclusive du mariage. La famille de la mariée n'est pas concernée, elle fait la dot. Mais le marié s'occupe de tout. Et Marie se sent responsable du bon déroulement de ce banquet et de la noce en général. Et son implication, expliquerait aussi pourquoi elle est mise au courant du problème du manque du vin. Vous êtes d'accord avec moi ? Pourquoi une invitée, on lui dirait, il manque du vin ? Pourquoi est-ce qu'on a interpellé Marie à ce sujet ? Elle était impliquée. Dans la culture de l'époque, c'est d'un déshonneur inqualifiable pour une famille si le vin vient à manquer pour les invités. C'est une véritable honte publique. Des données historiques permettent même de penser que les proches de l'épouse, qui ne l'oublions pas, ont fait une dot pour la marier, pourraient se sentir lésés et faire des poursuites judiciaires contre le mari. Ça peut aller loin, cette histoire. Le manque de vin pouvait avoir de graves conséquences pour le marié. J'ai vraiment souri lorsque j'ai réfléchi à ce message, parce que, figurez-vous, que la personne qui organisait notre repas, une personne de l'Église, a eu les mêmes craintes que Marie. Les mêmes. Elle a eu peur que le vin vienne à manquer. Elle a compté les bouteilles, elle a dit « Oula, on va être un peu juste. » 2000 ans plus tard, on peut avoir exactement les mêmes problèmes. Alors, en bonne gestionnaire, elle a acheté, vite fait, au dernier moment, du vin en complément, au cas où. Heureusement, la quantité de vin pour nous inviter était suffisante et tout s'est bien passé, je vous rassure. Donc on voit ici qu'il y a un problème très pratique. On commence à manquer de vin. Ça risque de tourner à la catastrophe. Marie va demander l'aide à son fils pour résoudre le problème. Cette demande se comprend si on considère que Jésus était orphelin de père à ce moment-là. Dans ce cas, il serait devenu le chef de famille puisqu'il était l'aîné. Et c'était son devoir d'aider sa mère, d'essayer de trouver une solution. On ne peut pas spéculer en imaginant que Marie savait que Jésus allait opérer ce miracle, puisque Jean prend soin de nous dire que c'était le premier miracle que faisait Jésus. Mais Marie s'attendait peut-être que Jésus fasse chauffer la carte bleue et qu'il donne de l'argent pour aller acheter du vin. La remarque de Jésus à Marie peut sembler impolie ou désobligeante. Elle a fait couler beaucoup d'encre. Écoute, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Dans des versions, il y a « femme ». Est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Ça peut sembler vouloir dire qu'elle a mal fait son travail et qu'elle aurait dû prendre une quantité de vin supérieure. En même temps, ça ne devait pas être facile parce qu'il fallait prévoir ça pour toute une semaine. Mais si elle avait mieux fait sa préparation, il n'y aurait pas eu ce problème. Mais il y a peut-être plus dans la remarque de Jésus envers sa mère. Depuis 30 ans, Jésus a vécu dans le cadre familial. Il est devenu le chef de la famille, celui sur lequel elle s'appuie. Il est son aîné, celui sur lequel elle s'est appuyée pour vivre dans la vie de tous les jours depuis la mort de son époux, pour élever ses 4 autres fils et aussi toutes ses filles. Jésus est un travailleur manuel hors pair, un charpentier talentueux qui nourrit par la force de son travail sa famille. Comment Marie pourrait-elle voir différemment ce fils? Mais à Cana, Jésus va quitter définitivement sa famille, son travail, en un mot, sa vie d'homme normal, pour se mettre entièrement au service de Dieu, le Père, son Père. À Cana, Jésus va pour la première fois mettre une distance avec sa mère bien-aimée, car Marie aussi, comme tous les hommes, comme toutes les femmes, a besoin de discerner que Jésus n'est pas seulement son fils, mais qu'il est aussi le Fils de Dieu. Marie devra apprendre qu'elle aussi doit venir un jour au pied de la croix pour reconnaître en Jésus son Sauveur et son Seigneur. L'ange Gabriel avait dit à Marie au sujet de son fils qu'une épée lui transpercerait l'âme. Peut-être faisait-il mention de cette distance que Jésus a été obligé de prendre vis-à-vis d'elle, ainsi que de sa fin tragique sur la croix. Alors cette difficulté particulière d'être dans la famille de Jésus, comment discerner qui il était vraiment? C'était aussi celle de ses demi-frères et puis de ses sœurs. Et l'Écriture nous le montre bien par la suite. Nous reviendrons plus tard sur la remarque énigmatique de Jésus à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais juste après avoir dit cela, ce qui est très surprenant encore, c'est la remarque de Marie. Elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira ». On dirait que Marie ne tient pas du tout compte de ce que Jésus vient de lui dire. Mes chers amis, la Bible ne nous dit pas tout, sinon ça serait des encyclopédies entières qu'on aurait sur la vie de Jésus, sur toutes ses paroles. Si Marie a parlé ainsi au serviteur, c'est que Jésus a fait au minimum un petit geste d'assentiment pour dire qu'il était d'accord, qu'il allait aider dans cette situation. On est donc en présence ici d'un Jésus qui est responsable, qui est solidaire de la famille, du marié, qui est prêt à aider pour résoudre ce problème pratique. En quelques mots, on pourrait dire que Jésus est quelqu'un sur qui on peut compter. Jésus applique parfaitement le cinquième commandement, « Honore ton père et ta mère », et il l'applique à sa famille élargie. Il est bon et il est compatissant envers son entourage. Enfin, on remarque que pour résoudre ce problème pratique, Jésus va, sur proposition de sa mère, utiliser des personnes présentes pour qu'elles participent à la réalisation de son miracle. Il va demander de l'aide aux serviteurs pour remplir les jarres d'eau. Il n'était pas obligé. Il aurait très bien pu dire « Jarre, remplissez-vous de vin » et ça aurait été fait instantanément. Il a voulu faire ainsi pour montrer qu'il y avait, que des gens étaient au courant et que ce miracle était effectif. Jean veut nous le démontrer de cette manière pour qu'il n'y ait aucun doute pour nous. Oui, cette eau, c'était bien de l'eau et cette eau a bien été transformée en un vin excellent. Posons-nous quelques instants pour nous représenter ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mais chacune de ces 6 cruches pouvait contenir 96 litres d'eau. J'ai un aquarium chez moi qui peut contenir 56 litres d'eau. Je vous dis une bêtise, je ne sais pas combien d'eau, mais il est grand. Et je sais qu'il pèse au minimum 56 kilos. C'est pour savoir le poids du contenant. Donc, avec ces calculs, on peut supposer qu'une jarre en pierre, pouvant contenir la même quantité, c'est-à-dire dans les 90-96 litres, pèse au moins une centaine de kilos. Vous êtes d'accord? Un aquarium en verre pèse 56 kilos, contient 96 litres. Eh bien, pour une jarre toute en pierre, elle pèse au moins la même chose. Ça signifie que ces jarres ne devaient pas être bougées dans la pratique, c'était des jarres rituelles. Ça aurait pas du tout été pratique de les déplacer. Mais imaginez cependant qu'on les déplace, malgré tout. Il aurait fallu les rapporter pleines, c'est-à-dire avec 100 litres de plus par jarre. Ça fait 200 litres par jarre. Ça commence à faire beaucoup. Ça paraît impossible. Cela implique qu'il a fallu plein de petits récipients, des petites jarres, qui sont facilement portables, pour partir au puits et pour commencer à faire le transvasement. Il a fallu faire de nombreux allers-retours pour remplir ces jarres rituelles à ras-bord, nous dit le texte. Et n'oubliez pas aussi qu'il a fallu puiser toute cette eau, 600 litres d'eau, et la ramener sur le lieu du mariage. Le tout le plus rapidement possible, car il y avait urgence, le vin commençait à manquer. Ils ont dû puiser, puis transporter, puis transvaser. En fait, 6 fois 9, ouais, plus de 500 litres d'eau. J'ai participé à un camp scout cet été, le camp des flambeaux. Et il y a personne qui était dans l'équipe technique, il y avait Mamira Benja, il y avait Chad, et les flambeaux aussi qui ont rempli plusieurs fois les jerrycans de 25 litres d'eau. Parce que vous savez, quand on est scout, on n'a pas l'eau courante, on n'est pas à la maison. On n'avait pas l'eau courante de notre cuisine du camp, et donc tous les jours, il fallait aller chercher de l'eau à 20 mètres de là. On prenait une petite carriole, les jerricanes, on allait au bloc sanitaire, il remplissait tous ces jerricanes, il les ramenait, donc pour 50 litres environ. Il fallait 10 minutes à un quart d'heure pour accomplir cette tâche. Et encore, il y avait un robinet. C'est facile avec un robinet. Il n'y avait pas besoin de puiser dans un puits. Alors vous imaginez en tout cas à cette époque, puiser 500 litres, plus de 500 litres, pratiquement il a fallu plusieurs heures pour accomplir cette tâche. Plusieurs heures à Cana. Mais tout s'est bien déroulé. Finalement, Jésus a résolu le problème de manière magistrale, mais pas comme le ferait Monsieur Tout-le-Monde. L'ordonnateur du repas, c'est-à-dire celui qui organise le repas, les distributions de vin, n'était pas au courant de l'action de Jésus. Il ne peut être que surpris. Pourquoi servir le meilleur vin maintenant ? Il faut dire qu'à l'époque, la noce durant plusieurs jours, on a dit des fois 7 jours, eh bien l'ordonnateur avait pour habitude de couper le vin. Moi, j'aime pas couper mon vin. Mais voilà, ça se faisait comme ça à l'époque. De cette manière, en coupant le vin, en rajoutant de l'eau, eh bien le degré d'alcool diminue pour avoir un petit peu quelque chose de comparable à nos bières actuelles. Il fallait consommer le vin pendant une semaine sans être constamment enivré. Ça aurait été un problème. Mais, à force de boire de petites quantités d'alcool, malgré tout, ça a un effet sur le corps humain. L'ordonnateur avait donc pour mission, en seconde partie de soirée, de faire des mélanges de second choix, de vins de second choix, ce qui était moins ruineux pour le marié. Et comme les vins, les gens étaient un petit peu enivrés, eh bien, ils s'en rendaient pas compte. D'après le témoignage de l'ordonnateur à Cana, les invités se rendaient compte de rien. Bref, l'honneur du marié et sauf la honte sur la famille, c'était ça qui, le but, a été évité. Qu'est-ce que nos contemporains, les contemporains de Jean, ont pensé de Jésus en lisant ce texte ? Eh bien, on y voit un Jésus dans cette cérémonie de mariage. Il approuve pleinement le mariage. Le mariage est une ordonnance créationnelle voulue par Dieu. Il est bon de se marier. Il manque du vin et Jésus, en homme responsable et impliqué, intervient et résout le problème. Mais la manière qu'il utilise est extraordinaire. De plus, il utilise une remarque énigmatique envers sa mère. « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais qu'est-ce qu'il veut dire en disant cela à Marie ? Dans les évangiles, on trouve souvent l'expression « l'heure est venue » ou « l'heure n'est pas encore venue ». Le mot « heure » se rapporte dans ces cas à des moments précis, déterminés dans le plan de Dieu pour l'accomplissement de certaines tâches ou de certaines prophéties. Rien que dans l'évangile de Jean, on trouve de nombreuses références à cette fameuse « heure ». Par exemple, en Jean 7,30, il cherchait à arrêter Jésus et personne ne porta la main sur lui parce que son heure n'était pas venue. Ou un chapitre plus loin, Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près du tronc, des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue. Dans Jean 12,23 aussi, celui-ci leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. » Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Dans ce dernier verset, la signification de l'heure de Jésus est expliquée par une image agricole. La mort d'un grain permet sa germination et sa multiplication. Jésus parle donc clairement de sa mort prochaine. Il sait qu'il va mourir. Il sait pourquoi il va mourir et quel va être le résultat de sa mort, un débordement de vie spirituelle qui va rejaillir dans le monde entier. À Cana, Jésus inaugurait son ministère spirituel, son heure, c'est-à-dire l'accomplissement du dessein de Dieu en Jésus-Christ par sa mort expiatoire du péché des hommes. Cette heure n'était pas encore venue. Il le dit à sa mère. Mais pourquoi Jésus parlerait-il de cela à Cana? Ça semble complètement inadéquate. Marie vient de parler de vin, de ce problème de manque de vin. La réponse de Jésus a forcément un rapport avec cette question. Les prophètes ont parlé d'un banquet messianique qui viendra à la fin des temps, après le jugement dernier, et dans lequel le vin coulera en abondance. Par exemple, en Jérémie 31, « Les voici qui reviennent avec des cris de joie sur la colline de Sion. Ils affluent vers les biens que l'Éternel a préparés pour eux, le blé, le vin nouveau et l'huile, les moutons et les bœufs. Leur vie sera comme un jardin bien arrosé. Ils n'auront plus de chagrin. » Dans Osée 14, « Ils reviendront habiter à son ombre. Ils revivront comme le blé et fleuriront comme la vigne. Et ils auront la renommée des grands vins du Liban. » Et enfin dans Amos, « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le jus de fruits ruissellera des montagnes, et où toutes les collines s'épancheront. Je ramènerai les captifs de mon peuple, d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. » Marie demande du vin à Jésus. « On a besoin de vin, mon fils. » Et Jésus répond par rapport à l'image du vin véhiculée par les écrits bibliques pour toucher ses contemporains. Jean a écrit en premier pour ses contemporains. Il faut qu'ils comprennent que Jésus est révélé, que Jésus a un rapport avec tout ce que les Juifs attendent depuis des siècles. Oui, Jésus pourvoira à ce qu'il y ait du vin en suffisance lors du banquet de l'Alliance messianique. Lorsque ce moment à venir sera là, cette heure du banquet, rien ne manquera aux élus de Dieu. Rien ne nous manquera, chers amis. Même pas le vin. Pour les Juifs pieux de l'époque qui connaissaient la Torah presque par cœur, qui lisaient la Torah dans la synagogue ou au temple, depuis leur tendre enfance, cette référence au vin de Jésus a une résonance particulière. De la même manière qu'il va créer du vin en abondance à Cana, il y en avait bien plus que ce qu'il fallait, il créera un vin nouveau qui sera une bénédiction pour le monde entier et jusque dans la vie éternelle. On comprend mieux ce qu'il veut dire par « son heure n'est pas encore venue ». Nous aurons des bénédictions en Christ dans l'avenir. Alors dans ce récit, Jésus pallie à la négligence du marié qui a mal calculé son coup. Mais Jésus, lui, en tant qu'époux de l'Église, anticipe la manière parfaite avec laquelle il accomplira son rôle d'époux messianique. Jésus est notre époux parfait, l'époux de l'Église. Rien ne manquera à ses élus lorsque ce monde-ci sera achevé. Donc nous pouvons nous réjouir ce matin, parce que nous sommes au bénéfice de cet époux parfait, un être parfait qui prend soin de nous tous les jours. Nous allons voir maintenant que Jésus révèle sa gloire et son signe provoque la foi de plusieurs personnes. Au chapitre précédent, nous était parlé de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, à un moment donné, affirme de manière publique, il affirme même plusieurs fois, à haute voix, que Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Celui qui s'est sacrifié pour les péchés du peuple. On a cette image. Et constamment, Jean, dans son évangile, fait le rapport, le pont, entre les événements qui se produisent avec Christ et ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Pour André et Philippe, dans le chapitre précédent, qui ont rencontré Jésus-Christ, Jésus et le Messie. Ils ont pensé quelques heures auprès de lui, ça ne fait aucun doute. C'est lui le Messie, celui que Dieu a mis à part pour accomplir une mission spéciale, celui qui était annoncé d'après les Écritures sacrées. Pour Nathanaël, un autre homme qui deviendra lui aussi un apôtre, Jésus est le roi d'Israël et même le Fils de Dieu. Tous ces qualificatifs, Fils de Dieu, Messie, sont plus extraordinaires les uns que les autres. Et s'ils sont vrais, vont entraîner un bouleversement énorme pour Israël, et voire même pour le monde entier, puisque les Écritures, selon les Écritures, le Messie est censé apporter une bénédiction particulière à toutes les nations. Alors nous pouvons nous demander que révèle ce passage par rapport au but que Jean s'est fixé lorsqu'il a écrit cet évangile. Je vous rappelle le but de cet évangile qui est écrit au chapitre 20, verset 31. Jean dit, j'ai écrit ces choses pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, ça veut dire le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Voilà quelle était l'ambition de Jean en écrivant ça. Qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu et que cette confiance, cette foi en lui nous permette d'accéder à l'éternité auprès du Père. Alors, dans notre première partie, nous avons vu que Jésus a agi comme un homme responsable, soucieux des intérêts du marié. Il a évité une honte familiale en résolvant le problème du manque de vin. Mais n'oublions pas comment il a résolu le problème. Jésus a fait un miracle tout de même. À Cana, même si ça paraît trivial de prime abord, Jésus a transformé plus de 500 litres d'eau en 500 litres de vin. Il est un très vieux rêve pour l'homme, et même parfois de grands scientifiques ont essayé de travailler sur cette question, trouver le moyen de transformer un élément en un autre élément. Au Moyen-Âge, on espérait ainsi trouver la pierre philosophale pour transformer des métaux simples en métaux précieux, comme du plomb à transformer en argent ou en or. Mais cette pierre aurait eu également d'autres vertus, puisqu'elle devait permettre de guérir de nombreuses maladies et aussi d'allonger considérablement la vie humaine. Si vous êtes intéressé pour la question, vous mettez sur Google, un moteur de recherche, ou un tout autre, changez le plomb en or et vous aurez toutes les réponses à vos questions, les réponses scientifiques. Mais je vous en dis quelques mots quand même. Pour que le plomb devienne de l'or, chers amis, il faut lui enlever 3 protons et 8 neutrons. C'est-à-dire quelques nucléons. Les nucléons, c'est le nom générique des protons et des neutrons. Le plomb a 208 nucléons, c'est-à-dire 82 protons et 126 neutrons. L'or n'en a que 197, c'est-à-dire 11 de moins. Alors en bombardant le plomb, une quantité de plomb, avec une machine adaptée, on peut espérer lui arracher ses 11 nucléons de trop. Le hic, c'est-à-dire 3 protons et 8 neutrons, hein. Mais le hic, c'est que la probabilité que cela puisse se réaliser, c'est très faible. Il faudrait que le bombardement dure des mois, voire des années, pour obtenir de l'or. Et quand on connaît le coût de fonctionnement des grands accélérateurs, quelques milliers d'euros par heure, ça coûte cette histoire, eh bien mieux vaut se rendre directement chez son bijoutier, où l'or y est finalement très bon marché. Ce n'est pas aux dames, les dames qui diront le contraire. Pourtant, Jésus a réalisé la transformation d'un élément en un autre élément, sans aucune machine, en utilisant des personnes complètement neutres. Plusieurs témoins oculaires ont constaté la véracité de ce miracle. Les serviteurs, tout d'abord, eux, ils n'étaient pas surpris, parce que c'est eux qui avaient puisé l'eau. Ils savaient qu'en apportant le liquide à l'ordonnateur, quel était le liquide qu'ils avaient puisé dans le puits. Je ne sais pas si vous avez un puits, mais moi j'en ai un chez moi. Est-ce qu'on trouve du vin au fond d'un puits? Ça serait formidable. Mais non, on y trouve de l'eau, hélas. Enfin, c'est utile aussi. Hein. Et puis, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu les disciples et Marie qui ont assisté à ça. Bref, Jésus détient la puissance, le pouvoir de transformer un matériau en un autre matériel. Jésus possède plus de puissance que n'importe quel accélérateur de particules actuel, chers amis. Alors je vous pose la question, mais qui a le pouvoir de réaliser une telle prouesse? Qui peut le faire? Le Créateur de notre univers peut seul le faire avec facilité, parce qu'il est le Tout-Puissant. Ce texte annonce donc la divinité certaine de Jésus-Christ. Or, rappelons ce verset que je vous ai lu, le but de l'apôtre, ceci est écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, chers amis, est-ce que Jean vous a convaincu ce matin? S'il y avait le moindre doute, il pourrait y en avoir. Comme il voulait le faire pour ses lecteurs il y a 2000 ans. Nous notons dans notre texte que suite à ce miracle, les disciples crurent en lui, c'est ce qui est marqué mot pour mot. Mais nous remarquons aussi autre chose, c'est qu'il n'est parlé ni de Marie, ni des serviteurs. Dans cette foi naissante, il n'est pas parlé d'eux. On ne sait pas ce qu'ils ont dans leur cœur. La foi véritable ne vient pas d'une preuve miraculeuse, ou rarement. Et Jean le dit lui-même au chapitre 12, verset 37, « Malgré le grand nombre de signes miraculeux que Jésus avait fait devant eux, les Juifs ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe leur avait prédit, « Seigneur, qui a cru à ce que nous avons prêché, et à qui ta puissance a-t-elle été révélée au Dieu ?» Donc, ce n'est pas parce que vous verrez un miracle que vous aurez la foi. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Cependant, Jean le tempère un peu son propos, un peu plus loin, au chapitre 12, verset 41, quatre versets plus loin. Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui. Tiens, il y a eu des dirigeants qui ont cru en Jésus. Ben oui, on en connaît. Nicodème, par exemple. Ensuite. Mais, à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Donc, on voit que de voir un miracle, même devant nous, eh bien, peut nous amener à la foi, mais pas nécessairement. Le plus souvent, il faut autre chose. La foi vient d'une rencontre personnelle, d'un cœur en cœur particulier, avec Dieu et avec Jésus-Christ. Parce que ce Jésus peut seul vous convaincre de vos besoins, et qu'il peut répondre à vos besoins, qu'il peut vous sauver, que vous avez besoin d'être sauvé. À Cana, Jésus a résolu un problème d'intendance, mais il a aussi, par son œuvre, convaincu ses disciples sur sa divine identité. 2000 ans plus tard, cette rencontre est toujours possible, et les chrétiens en sont la preuve vivante. Cette rencontre avec Jésus est toujours possible. Pourquoi ? Parce que Jésus est encore vivant aujourd'hui. Il y a 2000 ans, Jésus a été crucifié, mais il est aussi sorti du tombeau. Il est ressuscité et il vit aujourd'hui. Et Jésus est une personne à part entière à qui on peut s'adresser en lui parlant ou en le priant. Quelle est la gloire révélée dont Jésus parle, révélée par Jésus dont parle notre texte? Il est parlé d'une gloire. Normalement, seul Dieu est glorieux, vous êtes d'accord? Que ce soit par sa toute-puissance, par sa sainteté, par son amour, par l'œuvre de sa création, etc. Pourtant, l'évangile de Jean nous parle déjà depuis la deuxième fois de gloire, de la gloire de Jésus. Et Jean va y revenir de nombreuses fois dans son évangile. Il insistera sur la glorification du Fils par le Père et du Père par l'œuvre du Fils. Par exemple, en Jean 14, Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, au nom de Jésus, vous voyez qu'il faut lui parler, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Ou dans Jean 17, la prière sacerdotale. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné l'autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, revêts-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Donc, à Cana, les disciples ont pu voir le début de la gloire de Jésus-Christ. Ils ont pu l'apercevoir. Ils ont compris ensuite beaucoup de choses, mais ils ont pu commencer à apercevoir la gloire de Jésus-Christ. Et cette gloire, bien sûr, a été amenée à son paroxysme lors de la crucifixion, mais aussi de la résurrection de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en recherche spirituelle de Dieu, ce texte nous montre qu'il est possible, même en tant que simple être humain, nous sommes de simples êtres humains, de contempler la gloire de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Ça m'encourage, moi j'ai envie de contempler la gloire de Jésus-Christ. J'ai envie d'être rempli de joie en contemplant la gloire de mon Seigneur. Alors en conclusion, Jean a voulu nous montrer un peu plus qui était le Christ. Dans son évangile, il nous fait découvrir quelle est l'identité de ce Christ. Christ a des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain, des pouvoirs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Tout ce qu'il fera ensuite le confirmera. Ce texte nous dévoile que ce Jésus est glorieux. Il est bien plus qu'un simple homme. Est-ce que vous avez, à travers ce texte, un peu discerné la gloire de Jésus-Christ ce matin? Si c'est le cas, vous êtes des bienheureux, car Dieu vous a transmis par Christ les yeux de la foi. Si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas encore rencontré, vu, aperçu la gloire de Christ, si vous avez des doutes sur qui est Jésus, sur la portée de ce qu'il a fait, eh bien je vous encourage à persévérer. Je vous encourage à questionner ce Jésus-Christ, à lui parler, à lire la Bible qui nous révèle qui est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul risque lorsqu'on rencontre Jésus, c'est de croire en lui et d'avoir une vie transformée, une vie pour l'éternité. C'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous dans cette pièce. Ce texte nous parle aussi du festin des noces de l'agneau, dont parle le dernier livre de la Bible. Moi, il me réjouit parce qu'il revigore mon espérance. Quel privilège nous avons en tant que chrétiens que d'appartenir à cette épouse de Christ. Et cela nous rappelle à la finalité de la vie humaine, être toujours dans la présence physique de Dieu et dans sa gloire. Et c'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend, c'est ce que nous aurons après cette vie. Et déjà, d'une certaine manière, nous l'avons aussi, nous avons les prémices, avec le Saint-Esprit qui habite chaque chrétien dès aujourd'hui. Ce que nous avons perdu lors de la chute originelle, la séparation d'avec Dieu, la présence de Dieu plutôt, eh bien cela ne durera pas toujours. Cela ne durera pas toujours. La venue de Christ sur cette terre et l'éclat de sa gloire dont parle notre texte nous montrent que notre espoir est fondé sur du solide. L'arrivée de Christ a marqué l'inauguration d'une ère nouvelle dont nous faisons partie aujourd'hui. Réjouissons-nous d'avoir connu et cru au Christ, même sans l'avoir vu. Que cette espérance et cette joie guident nos pas dans la semaine à venir Nous prions que Dieu nous donne aussi l'occasion de témoigner de la gloire de son Fils Jésus, comme quelqu'un l'a prié ce matin. Ce signe à Cana est le premier des six signes que Jean décrit dans son livre. Il a pour but de dévoiler un peu plus l'identité de Jésus. Jean affirme très clairement que ce signe de Cana révèle la pleine divinité de Jésus-Christ. Et si nous croyons à ce récit, à ce changement d'eau en vin, aussi incroyable que cela puisse paraître, alors nous pouvons nous aussi dire, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Est-ce que vous en êtes tous convaincus? Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es quelqu'un qui se révèle à nos cœurs. Seigneur, cela ne vient pas de nous. Par ce miracle, les disciples ont cru en toi, mais peut-être que pour Marie, les serviteurs, cela a pris plus de temps. Peu importe, Seigneur, mais tu tapes à la porte de notre cœur. C'est tellement une joie quand nous ouvrons cette porte. Tu viens chez nous, tu viens souper avec nous, tu viens avec nous pour l'éternité. Quel privilège, Seigneur. Merci d'avoir glorifié ton Fils, de l'avoir ressuscité, d'avoir ainsi pleinement agréé ce qu'il a fait. Merci, Seigneur, parce que ce Fils a pris notre place, a reçu ta colère pour le prix du péché et nous a justifiés. Nous sommes désormais saints à tes yeux, Seigneur, et prêts à te rencontrer, prêts à vivre avec toi. Nous sommes devenus, comme le dit le début de Jean, enfants de Dieu. Nous voulons te remercier, nous voulons te glorifier. Béni sois-tu, au nom de ton Fils Jésus. Amen.